Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient et ce matin, nous continuons à débattre de la crise au Burkina Faso avec la signature cette nuit d'un accord entre les militaires loyalistes et les putschistes, un accord d'apaisement en attendant l'arrivée dans les prochaines heures à Ouagadougou d'une délégation de chefs d'État ouest-africains, 6 chefs d'État, pour remettre en selle Michel Kafando dans ses fonctions de président de la transition et pour entamer de nouvelles négociations afin de trouver un compromis sur les deux questions les plus sensibles, à savoir l'amnistie pour les putschistes et la participation des pro-Compaoré aux prochaines élections. Alors que peut-on attendre de ces nouvelles discussions? Quel scénario de sortie de crise faut-il privilégier? Vous continuez évidemment à nous appeler, à nous rejoindre ici à Paris, 33 9 693 693 70. Si vous nous appelez de France, le 09 693 693 70. Et toujours autant de réactions, des centaines de commentaires sur la page Facebook de l'émission, comme promis et comme tous les matins. J'en lirai évidemment quelques-unes pour alimenter le débat et alimenter la réflexion. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous avec la rédaction d'RFI. Ce sont vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. Je le précise de temps en temps, mais c'est bien de le rappeler. N'attendez pas le début de l'émission pour nous contacter. Vous pouvez le faire tout au long de la journée. On a besoin évidemment de vos questions en amont pour contacter au sein de la rédaction nos spécialistes, mais pour appeler nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. Un seul numéro, toujours le même, 33 9 693 693 70. Nous accueillons pour commencer cette émission Ignace, en ligne d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour Ignace.
Bonjour, bonjour. Hein.
Bienvenue sur notre antenne. Vous avez des questions sur le Japon?
Oui, effectivement. J'ai appris récemment sur RFI que le Japon a voté une loi de défense commune. Et ma première question est de savoir qu'est-ce qui justifie le vote d'une telle loi? Et est-ce que le Premier ministre a un projet précis à cela?
Alors c'est vrai que c'est une série de lois que vient d'adopter le Parlement japonais après des débats particulièrement houleux, puisque désormais l'armée japonaise pourra participer à des opérations militaires à l'étranger. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste au service international d'RFI. Faut rappeler que le Japon dispose d'une constitution pacifiste qui lui interdit de faire la guerre. Alors pourquoi modifier la constitution? Pourquoi vouloir adopter de telles lois?
Alors, cela fait longtemps que le Premier ministre Shinzo Abe voulait modifier cette constitution qui, comme vous l'avez dit, est pacifiste. C'était déjà le cas pour lui dans la seconde partie des années 2000 lorsqu'il a été une première fois Premier ministre, mais il n'avait pas dépassé le stade des déclarations, d'autant que son mandat n'avait duré qu'un an, c'était un petit peu court pour vraiment commencer là-dessus. Mmh. Cette fois, c'est différent. Hein. En décembre 2013, Shinzo Abe a été élu avec une très confortable majorité, ce qui lui permet de mettre en place les réformes qu'il veut. Une majorité qui a été confirmée en janvier de cette année lorsqu'il a organisé des élections anticipées. Et avec le recul, on peut se dire qu'il l'a fait avec en tête cette réforme fondamentale de l'armée japonaise pour laquelle il avait besoin que la population lui renouvelle leur confiance.
Ouais, mais pourquoi Shinzo Abe voulait-il tellement changer sa constitution?
Le texte date de l'immédiate après Seconde Guerre mondiale. Le pays à l'époque était occupé par les Américains. La constitution qu'ils mettent en place est donc pacifiste. Un pacifisme régi par l'article 9 dans lequel il est écrit que le Japon renonce à la guerre en tant que droit souverain de la nation. Alors il y a bien une armée au Japon, mais elle s'appelle force d'autodéfense puisque son champ d'action est limité à la défense du pays s'il est attaqué. Dans l'après-guerre, le pacifisme devient une valeur fondamentale pour le Japon, ce qui lui permet d'ailleurs de se développer tranquillement et économiquement à l'abri du parapluie nucléaire de son principal allié, les États-Unis.
Ouais, et du coup, le pays a bien changé depuis les années 50 et l'environnement régional a également évolué.
Oui, Shinzo Abe veut que ce changement soit désormais pris en compte. Malgré ses problèmes aujourd'hui de croissance, le Japon est encore le troisième producteur de richesses sur la planète. Pour le Premier ministre, il est temps de devenir un pays normal qui tienne sur la scène internationale une place à la hauteur de son poids économique. Et ça, ça passe par un soutien militaire en cas de besoin à ses alliés. Et c'est tout le sens des lois qui viennent d'être votées. Jusque-là, les forces d'autodéfense dont je parlais, l'armée, n'était intervenu en dehors du pays que pour des missions onusiennes de maintien de la paix à partir de 1992 et jamais en zone de combat. Maintenant, elles peuvent intervenir en extérieur pour soutenir leurs alliés. Les alliés du Japon, ce sont bien sûr, on l'a dit, les États-Unis, qui poussent le pays à prendre plus d'importance dans la région, car depuis quelques années, la Chine, on va dire, gonfle ses muscles et augmente considérablement le budget de son armée. Les différents territoriaux avec les petits pays de la région sont nombreux. Mmh. Des pays qui ont évidemment appelé à la rescousse les États-Unis pour patrouiller en Asie du Sud-Est. Des pays qui, comme les Philippines, sont bien contents que le Japon, lui aussi, soit désormais en état de mettre la main à la pâte et de patrouiller et d'aider son allié américain si celui-ci est attaqué dans sa région.
Et d'ailleurs, Shinzo Abe ne cesse d'affirmer depuis des mois que la constitution actuelle ne permet plus au pays, au Japon, de répondre aux nouvelles menaces géopolitiques. Il faut tout de même préciser, Christophe Pachet, c'est que ces nouvelles lois posent malgré tout des conditions à ces nouvelles possibilités qui sont offertes aux forces armées japonaises.
Oui, alors, il faut que la survie du Japon soit menacée. Vous en conviendrez, c'est une notion assez vague qui peut être, évidemment, et c'est tout le danger, différemment interprétée selon le gouvernement qui est en place à ce moment-là. À noter quand même qu'à la Chambre haute du Parlement, lors des très nombreux débats, trois partis d'opposition ont obtenu que le rôle du Parlement soit renforcé pour ce déploiement éventuel de forces d'autodéfense à l'extérieur, à l'étranger.
Ouais. Ignace, vous avez une dernière question ?
Oui, j'ai une dernière question. Alors, avec les tensions actuelles entre le Japon et la Chine, est-ce que cette loi ne va pas pousser le Japon à se réarmer et surtout chercher à acquérir l'arme nucléaire ?
Ah, vu le passé du Japon, on voit mal ce pays se doter de l'arme nucléaire.
Oui, d'autant qu'on parlait de pacifisme. Hein, dans le pays, ce pacifisme s'articule entre autres autour du rejet des armes nucléaires. Après, voilà, les bombardements évidemment de Nagasaki et Hiroshima. Pour autant, il faut le souligner, les gouvernements successifs, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'ont jamais pris position pour le désarmement nucléaire. Voilà, il faut ménager l'allié américain et son parapluie atomique dont, on le disait, le pays profite toujours. Mais de là à chercher à obtenir l'arme nucléaire, il y a un immense pas. Il faudrait que le Japon ne soit donc plus l'allié des États-Unis, ce qui ne risque pas d'arriver avant, éventuellement, très 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 longtemps. Et puis, vu la réaction de la population à cet ensemble de nouvelles lois qui viennent d'être votées, 60% des Japonais y sont opposés, plusieurs manifestations ont mobilisé des dizaines de milliers de personnes dans les rues et devant le Parlement. Shinzo Abe sait très bien que s'il parlait ne serait-ce que de l'éventuelle possibilité de chercher à peut-être se procurer l'arme atomique, il serait immédiatement démis de ses fonctions. En tout cas, ce serait la révolution, quoi. Ça paraît totalement impossible.
Impensable, effectivement. Shinzo Abe, qui a certes remporté les élections anticipées cette année, mais qui n'a jamais été aussi impopulaire dans son pays. Merci à vous, Christophe Paget. Ignace, bonne journée à Abidjan. Merci de votre fidélité. Nous accueillons Marthe. Bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Vous nous appelez de Chalon-sur-Saône et vous avez des questions concernant l'épidémie de dengue à New Delhi.
Voilà, parce que j'ai entendu parler de cette énorme épidémie de dengue à New Delhi et je me demandais quels étaient les facteurs qui expliquaient cette prolifération de la dengue, plus particulièrement cette année. Et puis, que font les pouvoirs publics pour lutter contre cette épidémie?
D'autant qu'il s'agit de la plus importante épidémie de dengue à New Delhi depuis 5 ans. Bonjour Sébastien Farcy.
Oui, bonjour Juan, bonjour Marthe et bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant des RFI en Inde. Les hôpitaux de New Delhi sont débordés par des patients atteints de cette maladie. On rappelle quand même que la dengue, c'est un virus transmis par le moustique, qu'il n'existe ni traitement ni vaccin, d'où cette impression finalement de chaos dans les hôpitaux de New Delhi. Sébastien, quels sont les facteurs qui expliquent cette épidémie? Pourquoi est-elle si importante?
Alors d'abord, le moustique, comme vous disiez, qui propage la dengue par sa piqûre, appelée Aedes, il nous ressemble beaucoup. D'abord, pour l'identifier, il est urbain, il vit et pique pendant la journée principalement. Et ce qu'il adore, eh bien, c'est la chaleur et l'eau stagnante et l'eau propre. Alors Delhi et les grandes villes, donc c'est un moustique urbain, donc à la grande différence de la malaria qui est propagée par un moustique des campagnes. Il est répandu et il vient piquer pendant tous les ans de manière régulière à la fin de la période de la mousson, donc qui est aujourd'hui septembre-octobre. De manière concrète, il se propage d'homme à homme, surtout en piquant une personne qui est infectée et allant propager la maladie à une autre personne. La dengue est cependant moins dangereuse que la malaria. Clairement, la mortalité est inférieure à 1%, mais comme elle touche les villes, cela crée en effet cet épisode d'alarme très importante. Pourquoi en ce moment à Delhi ? Eh bien, il y a eu plusieurs raisons. D'abord, beaucoup de pluie pendant les derniers mois, ce qui a laissé propager des moustiques. Un manque peut-être de prévention aussi, donc d'alerte et d'alerter les gens pour qu'ils évitent d'avoir des zones d'eau stagnante. Il faut savoir que donc on parle de vases, d'eau dans les cuisines, donc des choses qui sont assez petites mais qui laissent se propager ces moustiques.
Ouais. Comment les pouvoirs publics gèrent-ils la situation ? On a eu en tout cas dans un premier temps l'impression que les autorités étaient quelque peu dépassées par cette épidémie.
Oui, on parle en effet, j'ai parlé à un scientifique qui est basé ici à Delhi, qui travaille pour le CNRS, et on parle en effet d'une épidémie incroyable, selon cet expert. Les hôpitaux ont recensé plus de 3000 cas de dengue, donc c'est quelque chose qui dépasse clairement les 2000 cas environ qui ont été recensés il y a 5 ans. 22 personnes en sont mortes. C'est en effet une importante épidémie, il y a eu déjà une épidémie il y a 2 ans, donc ça semble se raccourcir. Un chiffre qui reste bien plus faible que d'autres épidémies de malaria où en effet on parle de 200 000 personnes qui meurent du paludisme chaque année en Inde, mais une épidémie urbaine qui fait peur. La prévention, elle semble avoir été faible, comme on le disait. On a une prévention qui a été faible. Les hôpitaux publics qui ont été débordés aussi par ce traumatisme, par cette peur urbaine. Et ils ont répondu à cela en rajoutant 1000 lits dans les hôpitaux publics, des hôpitaux qui étaient en effet débordés. Trois enfants par lit dans certains hôpitaux, ce qui a vraiment engorgé les services.
Et puis il y a eu, excusez-moi Sébastien Farcy, un drame qui a véritablement suscité l'indignation de l'opinion publique, puisque deux enfants sont morts à cause de cette épidémie.
Oui, tout à fait. C'est bien ça qui a obligé les pouvoirs publics à réagir clairement et à demander l'annulation donc des congés des médecins, des infirmières, à rappeler à l'ordre les hôpitaux privés qui étaient accusés de refuser certains patients, qui étaient accusés aussi de surcharger, de surfacturer le prix pour l'identification de la maladie. Donc clairement, il y a eu une réaction très très forte de la part des pouvoirs publics la dengue a commencé à se propager, il était très difficile de la contenir, et donc il y avait surtout des réactions de la part des autorités pour limiter sa propagation.
Allez, Sébastien Farcy, on me dit que Marthe a encore une question. Marthe ?
Oui, moi j'ai aussi entendu parler souvent de pulvérisation d'insecticides pour détruire ces moustiques, mais j'ai pas l'impression que ce soit des produits très neutres, et je voudrais savoir quels en sont les dangers pour l'homme et aussi pour l'environnement.
Ah, ces produits sont-ils dangereux pour la santé de l'homme, Sébastien Farcy? Vous avez un élément de réponse?
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je les ai vu en effet ces machines arriver, les gens arrivaient avec des machines qui pulvérisent de la fumée dans les quartiers, dans les zones où il y a de l'eau. C'est en effet quelque chose qui vient d'arriver, encore une fois, qui a été relancé par les autorités, et c'est une bonne question parce que d'abord, ce sont des machines qui diffusent des insecticides, un insecticide qu'on appelle le malathlon, et du diesel, donc clairement qui va tuer les adultes, pas forcément les larves, mais ce n'est pas une mesure préventive en tant que telle, c'est une mesure donc pour tuer ces moustiques une fois qu'ils sont arrivés, donc pour contenir la propagation, mais les médecins eux-mêmes sont très réservés, voire ils alertent en effet sur les effets, car on a affaire donc à des produits toxiques qui peuvent endommager la santé de personnes asthmatiques, de personnes enceintes, d'enfants. Et une mesure qui a peu d'effet à long terme, car ça n'empêche pas les moustiques après de se répandre pour ceux qui survivent. Et ce sont des produits toxiques, les pesticides qui peuvent rentrer dans l'organisme, endommager le foie ou dans les terres. Donc il parle surtout d'un effet psychologique pour montrer aux habitants qu'on fait quelque chose, que les autorités agissent face à cette épidémie, mais pas vraiment à une vraie prévention qui, elle, rappelle encore une fois, doit arriver bien plus tôt, qui doit pousser les gens à éviter de garder l'eau stagnante, à éviter d'arroser de trop leurs plantes, ce qui n'est pas encore l'eau stagnante, et de mettre des moustiquaires aux fenêtres, qui sont encore une fois les mesures de prévention les plus efficaces.
Oui, en tout cas, cette épidémie risque de prendre de l'ampleur, puisque la saison des pluies, la saison humide n'est pas encore terminée à New Delhi. Merci d'avoir été avec nous, Sébastien Farcy. Marthe, bonne journée, merci de votre fidélité. 10h25 à Paris, n'oubliez pas dans un quart d'heure maintenant vos réactions sur les derniers événements au Burkina Faso, avec notamment la signature hier soir d'un accord d'apaisement entre les militaires loyalistes et les putschistes. 33 9 693 693 70. Nous accueillons Jocelyn, bonjour.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous avez des questions concernant le Népal.
Oui, ma question porte sur le Népal. J'ai appris que le Népal vient d'avoir une nouvelle constitution il y a juste quelques jours, alors que ce projet existait depuis très longtemps. Mmh. Alors ma question est la suivante. Pourquoi la mise en place de cette constitution a pris autant de temps? Et qu'est-ce qui change dans cette nouvelle constitution? Et surtout, qu'apporte-t-elle de plus à la population? Voilà ma première question.
Ouais, c'est vrai qu'il a fallu 7 années de négociations particulièrement tendues pour mettre au point cette nouvelle constitution. Philippe Ramirez est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes ethnologue au Centre d'études himalayennes au sein du CNRS. Le Népal, ce petit pays coincé entre l'Inde et la Chine, dispose depuis dimanche d'une nouvelle constitution. Pourquoi a-t-il fallu tant d'années? Pourquoi a-t-il été si compliqué de trouver un consensus autour de ce texte?
Alors, cette nouvelle constitution, en fait, et la première depuis que le Népal est devenu une république en 2008. Donc ce n'est pas n'importe quel travail constitutionnel qui a été élaboré ces dernières années. Mmh. Effectivement, ce travail a été entravé par un certain nombre de négociations qui ont beaucoup duré, et qui portait essentiellement sur le partage des pouvoirs entre les différents partis politiques à la suite de l'abolition de la monarchie.
Donc c'est essentiellement le partage du pouvoir qui bloquait les négociations. En même temps, on voit bien que l'opinion publique, les Népalais de façon générale, suivaient de près ce débat, puisque beaucoup de minorités craignaient tout au long de ce débat et de ces dernières années d'être, on va dire, un peu mises de côté.
Alors effectivement, l'enjeu ethnique est très important dans cette affaire de constitutionnelle. Il faut rappeler que le Népal a vécu plus de 10 ans de guerre civile entre 1996 et 2006. Une guerre civile qui opposait l'État népalais, à l'époque la monarchie et son armée, au parti maoïste. Et ce parti maoïste était en grande partie reposé sur un certain nombre de groupes ethniques dans les provinces éloignées du Népal. Le Népal est un pays pluriethnique, oui. Et le parti, la guérilla maoïste, s'est appuyé sur certains groupes ethniques. Ces groupes ont donc espéré que, une fois la guerre gagnée et le parti maoïste au pouvoir, ils pourraient obtenir beaucoup dans le nouvel État. Ces derniers temps, lorsque ces groupes ont compris que la constitution était sur le point d'être votée, que la carte du futur Népal a été publiée, ils se sont aperçus que finalement l'idée d'un Népal divisé en provinces ethniques avait été largement abandonnée par les partis politiques. Ouais. D'où les réactions violentes ces derniers temps.
Effectivement, et on peut dire que c'est le terrible séisme d'avril dernier qui a finalement débloqué la situation. Il y a eu comme une union sacrée de la classe politique pour essayer d'avancer dans ce débat constitutionnel. En deux mots, Philippe Ramirez, il nous reste à peine une minute. Elle change quoi cette nouvelle constitution? Qu'apporte-t-elle de nouveau?
C'est surtout la constitution de la nouvelle République du Népal. Finalement, l'idée était d'avoir un État fédéral Effectivement, les provinces ont un peu plus de pouvoir qu'auparavant. Chaque province aura sa police et sa politique de développement, mais finalement, il n'y a pas de changement radical par rapport à la dernière constitution démocratique du temps de la monarchie.
Merci d'avoir été avec nous, Philippe Ramirez, ethnologue au Centre d'études himalayennes au sein du CNRS. 10h30 dans quelques instants à Paris, le journal, et on revient dans 10 minutes pour parler du Burkina Faso.